Oui, viens, Saint-Esprit. Nous avons bien besoin de ta lumière pour méditer et approfondir ces trois textes qui ne sont vraiment pas des mini-textes, mais bien des textes clés de toute la Bible. Le célébrissime verset de Jean 3,16 qui nous donne à entendre Jésus parlant de Dieu et de lui-même en explicitant le don de sa vie pour notre monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver, dans un amour si grand qu'il donne tout ce qu'il a, le meilleur de lui-même, sa vie. Ensuite, cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, qui visiblement n'avait pas lu le protocole d'entrée dans ce temple, puisqu'il nous invitait à nous embrasser joyeusement les uns les autres pour nous saluer avec un saint baiser, qui nous invite à expérimenter une vie fraternelle faite d'encouragement mutuel, d'accord, recherche d'accord et de paix. Et enfin, ce non moins célèbre du livre de l'Exode, ce passage où c'est nul autre que Dieu lui-même qui parle de lui. Et il nous faut bien sûr entendre derrière le titre éternel que nous avons entendu, le nom même de Dieu, ce nom que la tradition juive a choisi par respect de ne jamais prononcer, ce tétragramme qui nous dit que l'identité de Dieu se conjugue à tous les temps du verbe « être » et que précisément la manière d'être de Dieu, c'est justement de choisir d'être compassion, d'être miséricorde, d'être pardon bien plus que jugement. Et vous aurez été attentif à l'arithmétique, j'imagine. Lorsque le livre de l'Exode se met à manier les chiffres, eh bien il est clair qu'à plus de 300%, il privilégie la grâce sur la condamnation. Tenir rigueur sur 3-4 générations ou faire grâce sur 1000 générations, vous imaginez, une génération c'est quoi ? 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait plus trop. Et même si on disait que 10 ans, ça fait 10 000 ans pour une. Alors comment accueillir ces trois maxi-textes aujourd'hui dans ce temps de culte qui marque pour nous le modeste redémarrage d'une vie communautaire un peu plus classique après 12 semaines de bouleversement que nous venons de vivre. Pour ma part, je les reçois d'abord comme une invitation un peu urgente à nous recentrer sur l'essentiel. Qu'il s'agisse de notre vision de Dieu, qu'il s'agisse de notre compréhension du message de l'Évangile ou de notre mise en œuvre communautaire de cette bonne nouvelle, les trois sont étroitement liés, comme vous pouvez l'imaginer. Quand je dis liés, vous pouvez entendre étroitement en cohérence. L'étroite cohérence qui doit unir notre vision de Dieu, la compréhension que nous pouvons avoir de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et la manière dont nos relations, notre vie commune, nos engagements manifestent concrètement ces convictions spirituelles. Vivre de manière pratique cette mise en cohérence, eh bien c'est le défi qui est devant nous, et c'est sacrément un défi, toujours. Car de toute évidence, le spectacle du quotidien, celui que nous avons sous les yeux en permanence, se résume souvent à un véritable paroxysme des dissonances de sens et de signification. Nous sommes immergés dans un genre de magma de contradictions qui pourrait facilement nous faire douter de tout, et quand je dis de tout, je veux dire de l'essentiel. L'actualité mondiale nous en donne une démonstration quasi quotidienne. Alors bien sûr, cette semaine, en voyant l'image grotesque d'un président brandissant une Bible devant une église incendiée pour répondre aux manifestations antiracistes qui ont entouré le meurtre dramatique et scandaleux de George Floyd, on a pu se dire que, décidément, les Américains ont toujours une longueur d'avance en tout sur nous, et même dans celui de l'incohérence des valeurs. Au-delà de l'image lamentable, devant les caméras, de brandir un objet religieux en espérant s'allier quelques croyants peu regardants. Je crois qu'il nous faut précisément, si nous désirons être un tantinet cohérent, il nous faut oser regarder nos vies aussi avec la même lucidité. Car c'est là un des pièges favoris de l'outrance, que de faire écran à notre propre discernement, à notre propre autocritique, et en l'occurrence, de se dire devant un Trump gesticulant, Bible à la main devant les caméras, eh bien, ma foi, on a trouvé plus incohérent que nous. Alors, nous voilà bien rassurés, confortablement installés, pour pouvoir nous défausser à bon compte sur, supposons-nous, pire que nous. Mais de fait, nul besoin de traverser l'Atlantique pour constater l'incohérence dont nous sommes nous-mêmes à la fois les victimes et les complices. De toute évidence, il n'est pas facile de vivre de manière un peu cohérente avec le message radical d'amour de la Bible. Dieu, non seulement depuis Jésus, mais depuis les tout premiers temps de la révélation biblique, a choisi, nous l'avons entendu, de se présenter sans cesse sur le versant de la miséricorde, du pardon, de la surabondance de grâce, alors même que d'une façon générale et générique, et en toute honnêteté, il me semble que nous fonctionnons quotidiennement avec un tout autre logiciel, et notre logiciel est clairement comptable. Notre vision de la justice est comptable, toujours. Nos modèles de développement économique sont comptables. Nos critères de réussite sont comptables aussi. Et même nos prévisions environnementales, elles aussi, sont encore et toujours comptables. Il est clair que la grâce qui caractérise la manière d'être de Dieu est de fait hors jeu, hors de propos, dans tous ces domaines qui nous préoccupent pourtant et qui préoccupent notre monde. Notre monde, soi-disant passant, notre monde que nous n'aimons pas tant que cela, généralement. Nous lui trouvons tous les défauts du monde à notre monde. Nous le trouvons injuste, nous le trouvons inégalitaire, nous le trouvons ingrat souvent, dur, implacable, superficiel, hypocrite, aveugle souvent, et sans mémoire, toujours, incorrigible, versatile, égoïste, sans scrupules, indécent, violent. N'en jetez plus, la cour est pleine. Ce monde dont nous savons pourtant que nous sommes partie prenante, ce monde qui nous donne mille occasions d'être écœurés, bien souvent nous le jugeons détestable. Or, ce monde si détestable à nos yeux, l'Évangile nous dit que Dieu, lui, l'a tellement aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, non pas pour le condamner, non pas pour le dénoncer, mais pour le sauver, afin que quiconque croyant en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, une vie pleine, une vie à jamais, la vie éternelle. De toute évidence, les paroles bibliques nous prennent à chaque fois à revers. La vision de Dieu, sa vision du monde, sa vision également de la communauté chrétienne, dépeinte d'une manière tout à fait étonnante par l'apôtre Paul, surtout à Corinthe, où on savait que ce n'était pas simple, mais Paul qui redit combien une communauté doit concourir vers la paix, l'accord, l'encouragement mutuel, l'épanouissement. Tant de choses que nous avons souvent du mal à reconnaître dans nos propres vies communautaires. Et du coup, vous vous rendez compte à quel point on peut facilement en arriver à vivre sa foi dans un genre de dissonance cognitive continue, en éprouvant sans cesse une tension irréductible entre l'Évangile que nous recevons et parfois prêchons, et puis notre vie quotidienne telle qu'elle est, caractérisée a priori par la contradiction permanente de toutes ces valeurs prônées par l'Évangile. Et ce qu'il y a encore de pire dans ce tableau déjà pas très reluisant de notre condition chrétienne dans le monde, c'est qu'en général, eh bien, nous nous en accommodons. Et pas si difficilement que cela. Nous nous accommodons au final assez rapidement de cette dissonance et nous l'habillons pudiquement de quelques concepts spécieux. On dira « Ah, c'est normal, c'est la dissonance naturelle qui existe entre les grandes idées, les idéaux et leur mise en application. C'est la dissonance inéluctable entre ce qui relève de l'intime, de la sphère du privé, de ce qui est possible de vivre dans une collectivité où on ne se choisit pas, et ainsi de suite. Et pour finir, toutes nos petites théories, bien commodes, pour rendre l'écart moins déchirant, bien toutes ces théories finissent par travestir complètement l'Évangile en en faisant une idéologie parmi d'autres, un genre d'utopie poétique et esthétique que l'on peut d'autant mieux apprécier qu'elle ne nous oblige en rien. Alors revenons un instant à l'actualité qui est la nôtre, ces 2 mois et demi de confinement et l'expérience inédite que nous avons faite à l'échelle de la planète, expérience qui nous semblait, je pense à chacun de nous, inimaginable quelques semaines auparavant, et qui s'est produit d'un coup à une échelle inouïe. Soudain, plus un avion dans le ciel, plus de croisières en Méditerranée, quasiment plus de véhicules sur les routes et dans les rues, notre mobilité, sacro-sainte mobilité, nos échanges commerciaux, super sacro-saints échanges commerciaux, se sont soudain arrêtés. Et avec eux, les écoles, les universités, les crèches, les restaurants, les cinémas, et même les temples et les églises se sont fermés. Nous n'en revenons toujours pas. Et pourtant, c'est ce que nous venons de vivre. Comme quoi, parfois, ce qui semble inimaginable, la mécanique implacable, irréductible de notre système économique mondialisé, se révèle pas si inéluctable que cela. Il peut s'interrompre du jour au lendemain. Et ce que nous avons vécu aussi d'un seul coup, c'est la nécessité de réagir d'une manière si possible créative. Soudain, il est devenu impératif d'inventer, sans plus attendre, d'autres manières de travailler, d'autres manières d'être en communication, d'être en relation, d'autres manières de garder du lien avec ses proches. Et en ce qui nous concerne, d'autres manières de vivre l'Église aussi, d'autres manières de nous retrouver, d'autres manières de partager, de prier ensemble. Et si nous avons ainsi été stimulés dans l'Église, c'est que peut-être précisément la dissonance cognitive à laquelle nous étions finalement peu ou prou accoutumés, scindant notre vie en deux, la vie du dimanche et la vie de la semaine, ou la vie intime et la vie publique, entre le domaine des grandes idées généreuses, un peu hors sol, et le domaine pragmatique et sans concession de l'économie de notre monde, soudain le bouleversement qu'amène un petit virus, ce bouleversement qui touche toute la société, vient chambouler le fragile équilibre que nous nous étions bricolés jusque-là, quitte à ce que, au fond de nous quand même, nous vivions la dissonance quasiment comme une cacophonie. Un petit virus vient bousculer la vie de tout le monde et soudain, nous apprenons à écouter autrement, à envisager nos vies, notre monde, notre travail, nos priorités autrement. Soudain, il devient insupportable d'être scindé en deux, insupportable de vivre des idéaux désincarnés. Soudain, devient criant notre urgent besoin non pas seulement de cohérence, mais d'harmonie. Or, précisément, c'est l'harmonie qui me semble caractériser ces trois textes que nous venons d'entendre. En ce premier dimanche d'après la Pentecôte, un dimanche que la tradition de l'Église appelle dimanche de la Trinité, il me semble précisément que les textes de ce jour nous donnent à entendre non pas d'abord un discours, mais d'abord une harmonie, celle du Père, du Fils et de l'Esprit. Le Dieu, Père plein de miséricorde et de grâce, qui se révèle au peuple d'Israël au désert, le Dieu qui se donne sans réserve dans son amour pour le monde, jusqu'au bout, jusqu'au don de la vie du Christ, la vie du Fils du Père. Le Dieu qui inspire à son Église une conduite et un esprit vraiment fraternel qui se manifeste dans un accord profond et des encouragements et un support mutuel très concret. Aujourd'hui, l'Écriture nous donne à entendre cette harmonie trinitaire, une harmonie à accueillir et à goûter au sens quasi musical du terme. Au moment où toute notre société est mise au défi de sortir de ses réflexes rengaines, de répétition d'un système, mise au défi de, pour une fois, changer de partition, mise au défi de changer de rythme, de chanson peut-être, il me semble bienvenu de penser les choses et d'entendre les choses en termes d'harmonie. Car c'est bien ainsi que la créativité peut se déployer de la manière à la fois la plus inventive et la plus féconde. Je crois que la contribution que nos églises peuvent avoir et que nous, comme chrétiens, pouvons apporter dans le grand chantier qui s'ouvre aujourd'hui, cette contribution devrait témoigner de ce besoin vital d'harmonie qui implique la richesse de la diversité, de la pluralité, qui implique l'attention mutuelle à l'autre, à la sonorité propre de l'autre, qui implique de la relation bien plus nécessaire et urgente que la distanciation pour parvenir à l'accord. L'harmonie trinitaire, telle qu'en témoigne la Bible, nous rappelle, je crois, ce que devrait être la tonalité fondamentale de notre vie ensemble. D'abord, comme fondement et comme horizon, la grâce. Comme fondement et comme horizon. Ensuite, le don de soi, dans l'amour, plein et entier, comme modalité essentielle et efficace de mise en œuvre de cette grâce. Et enfin, l'encouragement mutuel, comme chemin partagé, pas à pas, jusqu'à ce que ce chemin devienne vraiment commun. Oui, sur cette harmonie-là, nous pouvons construire des mélodies nouvelles. Que Dieu soutienne notre sens harmonique et qu'il nous inspire un chant nouveau. Amen.